sur Radio G.
Bonjour à tous et bienvenue, vous nous écoutez sur le 101.5 FM ou le www.radio-g.fr. Nous sommes ensemble pour une heure de générique et aujourd'hui je vous emmène dans l'univers du réalisateur Ken Loach. Allez, tout de suite, on se retrouve avec Yann durant une heure. Bon dimanche à vous, c'est générique. Tous les auditeurs de générique, nous sommes ensemble durant une heure et pendant cette émission, je vous emmène dans l'univers du réalisateur britannique Ken Loach. Alors durant cette heure, vous aurez également le plaisir de retrouver la chronique du David Sicol et plus de la moitié de l'émission, nous aurons donc le grand jeu du Cinéville des Ponts-de-Cé afin de pouvoir vous faire gagner cette place de cinéma. Kenneth Charles Loach, dit Ken Loach, est né le 17 juin 1936. Il fêtera donc ses 84 ans d'ici 3 jours. Il est né à Newdonton, dans le Warwickshire. Alors je prononce toujours aussi bien l'anglais. Il est réalisateur de cinéma et de télévision puisque il a d'abord travaillé pour le petit écran et il a déjà quelques années derrière lui avant de commencer avec son premier film en 1967. Alors Ken Loach a dépoussiéré l'univers du cinéma et a apporté un renouveau dans les années 80-90. Il a notamment dépeint l'univers des travailleurs anglais avec brio.
Avec qui ?
Non, avec personne. Avec brio, c'est une expression qu'on emploie, si vous voulez.
Vous voyez, là, c'est l'exemple frappant, quoi. J'ai voulu faire de l'humour, c'est tombé complètement à plat.
Ah ! Avec brio ! Ah, oui, c'est très bon, c'est très bon.
Non, c'est trop tard.
Mais revenons à la filmographie de Ken Loach. Après avoir travaillé pendant plusieurs années à la télévision, il réalise son premier film. Alors, excusez-moi pour l'anglais, Porco, traduit en français, pas de larmes pour Joy. un film tiré du roman Porco de Neil Dunne, avec lequel Ken Loach signe le scénario. Sorti en 1967, c'est un film dans lequel on retrouve au casting Carol White et Terence Stamp. Alors Terence Stamp, hein, qui déclarait en parlant de Ken Loach, il n'y avait pas vraiment de scénario ni de dialogue, on improvisait constamment. Ken tournait avec deux caméras. C'est la première fois de ma vie et la dernière pour l'instant que je travaillais de cette façon. Et c'est absolument formidable. Ça va à toute vitesse et vous êtes dans le champ à chaque minute. Alors il faut se donner à fond, ça m'enchantait et me perturbait tout à la fois. Parce que Ken Loach me donnait une indication et sans prévenir, il en donnait une autre contradictoire à la comédienne Carol White. Voilà, on va tout de suite commencer cette émission avec un titre de la bande originale de ce film, donc Pas de larmes pour Joy. La musique et les chansons sont signées du chanteur Donovan et l'arrangement et la direction d'orchestre étaient faites par John Cameron. Et c'est d'ailleurs un titre, alors le titre éponyme d'ailleurs du chanteur Donovan que l'on va écouter puisqu'il s'agit de Porco. Et on se retrouve juste après sur le 101.5 FM de Radio G ou le www.radio-g.fr. Allez, bienvenue à vous, c'est tout de suite générique.
I dwell in the north, in the green country, far amir, far amir. And I take to my rest at the end of day, whilst o'er here pretty stars do play. And then I dream alone, then I make a song about everything that I've known and felt. Then it makes me sad and smile. Then I wake up in a funny old kind of day. The rain has gone away. Watching the children sing and play in the garden and the roadway. Up comes a little one singing a song about a friend she knows called Rosie. Off to the greenwood you must go, bring up your one fine posy. All of a sudden I'm light as air, feel sad as a butterfly. Oh, I dwell with my pride and my songs and things. We're only, oh, so we're only. And I dream of the girl with the sunshine eye, Sunday. She may be. And then I dream alone, then I make a song about everything that I've known and felt. Then it makes me sad and smelt. Then I wake up in a funny old kind of day. The rain has gone away. Watching the children sing and play in the garden and the roadway. Up comes a little one singing a song about a friend she knows called Rosie. Off to the greenwood you must go, bring him a one fine posy. All of a sudden I'm bright as air, feel sad as a butterfly. Oh, I dwell in the north, in the green country, far and near, far and near. And I dream of the girl with the sunshine eye, Sunday, wherever she may be. And then I dream along, and then I make a song about everything that I've known and felt. And it makes me sad and smelt.
Le prochain film dont je vais vous parler est sorti en 1969. Il s'agit du film Caisse, qui nous raconte l'histoire du jeune Billy Casper, de 15 ans, qui habite dans la ville de Barnsley, dans une ville minière du Yorkshire, dans le nord de l'Angleterre. et qui réussira à s'intégrer un petit peu plus grâce à un jeune faucon cresserel qu'il a déniché dans une falaise et pour lequel il volera dans une librairie donc un traité de fauconnerie puisque il s'est mis dans l'idée de dresser l'animal. Alors l'animal, le faucon cresserel plutôt, et se dit en anglais kestrel, d'où le titre du film Kess. Alors il s'agit du premier film que j'ai pu voir du réalisateur Ken Loach. Alors, c'est un film que j'ai vu il y a quand même très très longtemps, j'étais encore au collège, alors ça remonte à plusieurs dizaines d'années, nous étions donc au siècle dernier, et c'est certainement l'un des films qui m'a le plus marqué, donc je vous le conseille amplement, je pense que c'est peut-être même le premier film qu'il faut voir, si vous ne connaissez pas le réalisateur Ken Loach et que vous voulez donc aller voir ses films, je pense qu'il faut commencer par celui-là, donc Kess, sorti en 1969. Quant à la musique, elle est signée John Cameron et on va tout de suite écouter donc un titre de cette comédie dramatique. Il s'agit de Billy Sees Kiss in the Tower et puis on se retrouve juste après pour la chronique du David Sicole. Allez, sans plus attendre, retrouvons David et son David Sicol. Malheureusement, ce sera d'ailleurs le dernier de la saison. Allez, tout de suite, on écoute David avec une chronique que je découvre en même temps que vous.
Le David Sicol. Bonjour à tous et à toutes. En ces temps assez difficiles, même si, bien entendu, nous avons eu le plaisir depuis quelques semaines de profiter du déconfinement, chacun a pu prendre du temps pour se remettre en question, s'adonner à des tâches auxquelles il n'avait pas l'habitude, ou bien encore observer, écouter, discuter de divers sujets auxquels il ne prêtait pas nécessairement attention jusqu'à présent. C'est un peu ce que j'ai fait aussi. Je me suis posé quelques questions, y compris dans le domaine de la musique de film, bien sûr. Parmi ces questions, je pense qu'il y en a que vous-même, vous vous êtes également posé. Je vous propose aujourd'hui de vous intéresser à l'importance de la musique de film, son rôle au cinéma. La musique et le film ont toujours été de bons associés. Alors que le cinéma muet était encore en vogue, les producteurs illustrent et agrémentent l'histoire avec de jolis morceaux joués au piano. En fait, la musique a des fonctions importantes. On peut pratiquement dire qu'elle a un rôle à jouer dans le succès ou l'échec d'un film. En effet, le cinéma essaie de capter désormais le maximum de nos sens et Louis a pris une dimension considérable dans ce domaine. On ne peut pas imaginer aujourd'hui un film sans sa BO, qui sort de plus en plus en CD d'ailleurs. Il est évident donc de dire que son choix relève d'une tâche délicate. On comprend alors pourquoi certains réalisateurs ont préféré jouer des duos gagnants avec leurs compositeurs préférés. On en citera quelques-uns, mais les exemples sont nombreux et généralement, le succès est au rendez-vous. La musique, elle est là pour illustrer le film. En effet, le principal rôle de la musique d'un film, c'est d'illustrer l'histoire et la rendre encore plus captivante. On peut par exemple l'utiliser pour embarquer l'auditoire sur le lieu de l'action. Rien qu'en entendant la mélodie ou la chanson diffusée derrière les images, ils se retrouveront à la campagne, dans la jungle, en Afrique ou en Asie, en même temps que les acteurs. Il se trouve aussi que le son des instruments de musique peut exprimer l'émotion d'un acteur. Par exemple, si ce dernier lit une lettre, les spectateurs comprennent le contenu de celle-ci en entendant les premières notes. Il suffit aussi d'une mélodie pour savoir ce qui se passe dans la tête d'un acteur ayant l'air pensif. La musique constitue également un lien entre deux scènes ou bien deux événements. Elle assure la continuité de l'histoire. Ainsi, les spectateurs n'aperçoivent pas la coupure et enfin, il s'agit aussi d'une véritable source d'ambiance. C'est pourquoi son rythme et son style sont choisis avec soin afin d'émerveiller encore plus les spectateurs. Par exemple, la musique, on entend bien, par musique hein, bien sûr, on entend bien entendu le thème musical, mais aussi bruitage. Les petites notes de musique auxquelles on ne fait pas particulièrement attention pendant le visionnage d'un film, mais qui participent sans aucun doute au message à diffuser. Par exemple, la peur, la joie, l'attention. D'où le choix de la musique d'un film. En somme, la musique donne plus de vie à un film si elle est bien choisie. Il est du devoir de producteurs et des réalisateurs de sélectionner les meilleures mélodies. Elles doivent fondre avec les images. Si les spectateurs arrivent à dissocier les deux éléments, c'est qu'il y a une erreur. L'idée n'est pas de décorer un film avec les plus belles œuvres de Mozart ou de Chopin, mais avec une composition sophistiquée née d'une association de notes délicates. Parfois, une simple mélodie jouée avec une guitare ou un piano peut suffire. Le but, c'est qu'elle arrive à transmettre le message qu'elle véhicule. Voilà pourquoi il est tenu de coopérer avec un artiste talentueux qui sait composer un morceau unique. Il faut également le faire interpréter par un bon musicien ou un groupe de musique, bien sûr, sachant jouer avec brillance. Parmi les nombreux exemples qui peuvent venir à mon esprit, l'exemple du Grand Bleu, de Luc Besson. Il a littéralement illustré cette dimension. Le succès du film et de la musique sont indissociables. Et si bien que lorsqu'on entendait la musique composée par Eric Serra, on revoyait les images du film. Il y a eu pour ce film une association parfaite de l'image et du son. Si l'on remonte un peu plus dans le temps, on peut même citer le Grand Blond avec une chaussure noire, dont les premières notes de musique du thème composé par Vladimir Kosma signent ce film référence. Faisons un tour sur les caractéristiques des musiques de films. Il existe différents types de musique de film. La plupart du temps, les producteurs et réalisateurs misent sur la musique classique et font appel à un orchestre symphonique ou philharmonique. C'était le cas lors de la réalisation de la célèbre saga Star Wars, donc de John Williams, ou bien de Titanic, musique avec la chanson interprétée par Céline Dion. Mais les artistes populaires ont également leur place dans le monde de la cinématographie. Certaines de leurs œuvres ont bel et bien illustré les films les plus vus dans le monde, pour ne pas dire que le fameux Pretty Woman. Les musiques de catalogues ou d'illustrations composées par des musiciens inconnus, mais bourrés de talents, sont aussi très utilisées pour créer de l'ambiance. C'est donc un plaisir partagé pour les compositeurs. Les musiciens, ceux qui ont le don de composer de magnifiques mélodies, peuvent s'exprimer librement pour un film. En effet, ceux qui écrivent les chansons pour de la variété, du rock, sont un peu enfermés dans un format dont ils doivent respecter le code et les règles. Une musique de film leur permet, au contraire, de casser certaines de ces limites. Généralement, les musiciens sont très intéressés par ce type de projet, même si la charge de travail est conséquente. Un film, c'est aussi la possibilité d'une reconnaissance bien plus vaste que le marché local. Si on reprend les exemples des plus grands films dont la musique s'est imposée, ils ont permis à leurs compositeurs de devenir mondialement célèbres. Citons par exemple John Williams, Vangelis, Ennio Morricone, Vladimir Kosma, Hans Zimmer, etc. D'ailleurs, certains réalisateurs avaient leurs musiciens attitrés et formaient tous les deux un duo inséparable. Rappelez-vous, Francis Lai et Claude Lelouch, Philippe Sard et Bertrand Tavernier, ou encore Georges Delerue et Philippe de Broca, bien entendu John Williams et Steven Spielberg, ou encore Alan Silvestri et Robert Zemeckis. Pour conclure, on peut donc comprendre l'intérêt des musiciens-compositeurs pour écrire une bande originale de film. D'une part, ils peuvent librement s'exprimer. D'autre part, c'est un projet d'équipe généralement ambitieux à mener avec le réalisateur. Une bonne musique de film peut participer au succès national, voire international, d'un court ou d'un long métrage. C'est un moyen très efficace de faire connaître son talent au-delà de nos frontières. En revanche, il faut une très grande entente entre le compositeur et le réalisateur. Le contraire peut être très difficile à gérer et virer au cauchemar. Comme contraire, le compositeur doit également s'exécuter dans les délais assez brefs et doit s'ajuster en permanence dès qu'il a connaissance des premières images du film. Les délais ne sont pas extensibles, il ne peut pas remettre l'écriture de sa musique à plusieurs mois. L'inspiration doit être présente et s'ajuster au film, à l'ambiance, aux prises de vue, à l'émotion exprimée. La musique doit accompagner au plus près les acteurs, le texte. C'est donc un exercice difficile qui nécessite les plus grandes qualités dans le domaine musical. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, on pourrait définir plusieurs fonctions. On en avait déjà parlé dans une chronique il y a 2 ans. Mais revoyons tout de même cela. Première fonction, marquer le mouvement. Grâce à cette musique, on peut mettre en avant le fait de courir, galoper, agiter, balancer, voler, planer, caresser, etc. Deuxième fonction, marquer les sons réels, la superposition stylisée de bruits assumés par la trame sonore. Exemple, la pluie, le vent, les pas, les claquements des machines, etc. encore une fois. Troisième fonction, représenter le lieu de l'action. Utiliser la musique afin de plonger l'auditoire dans des environnements culturels, physiques, sociaux ou historiques particuliers. Alors, on pourrait avoir la musique du Japon, ou alors une musique qui corresponde à la jungle, à Paris, à la ville, à la campagne, ou encore bien d'autres exemples. Quatrième fonction, les musiques sources. Alors oui, qu'est-ce qu'on entend par musique source ? Lisa utilise le terme « source music » pour désigner les situations de musique réelle, alors que Goldman y réfère avec le terme « musique diégétique ». La musique de ce film devient diégétique lorsqu'elle est engendrée par la logique inhérente à la réalité fictive de la production visuelle. Autrement dit, lorsque la source de cette musique fait partie de cette réalité fictive. Alors, ça paraît un peu compliqué tout ça. Cependant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la source peut être visible à l'écran. Par exemple, une fanfare, un groupe dans une discothèque, un parent chantant une berceuse, un concert, un orgue dans une église. Bref, on met en avant des situations. Cinquième fonction, un commentaire. Alors là, c'est juste pour appuyer un petit peu plus quelque chose qui s'est passé, qui s'est dit dans l'histoire. Donc, utiliser la musique afin de commenter les images en perspective. Le type le plus courant de commentaires transmis par la musique dans un film est le contrepoint, qui présente une musique venant contrarier la connotation d'une séquence d'images. Par exemple, un air doux et mélodieux sur une vision d'holocauste nucléaire. Ou alors une musique grinçante pour une scène d'amour. On peut avoir, en sixième fonction, exprimer les émotions des acteurs. Il n'y a pas besoin d'exprimer un petit peu plus cela. Septième fonction, guide émotif pour l'auditoire. Ah oui, il nous s'agit là ici de mettre en avant plus les émotions qu'on a envie que l'auditoire, c'est-à-dire le spectateur, ressente. Exemple, la même scène et la même musique qu'avec celle de notre héros en fonction. Mais cette fois, avec un malfroid, lisant la lettre, accompagné par une musique d'horreur. L'auditoire sait que la lettre porte de mauvaises nouvelles pour eux, mais le méchant personnage de fiction, lui, s'en réjouit. On peut avoir comme encore une nouvelle fonction, le symbole. Utiliser la musique pour représenter une personne ou une chose déjà connue par l'audience, mais ne faisant pas partie directement de la séquence narrative immédiate. On peut également avoir anticipé une action subséquente. La musique s'assombrit alors que les images restent candides. Elle place l'auditoire dans une atmosphère menaçante juste avant que le visuel ne coupe pour un bouleversement sauvage inattendu. Encore un dernier, tracer la structure formelle d'un film. C'est donc une fonction de leitmotiv dont nous avions déjà parlé lors d'une autre chronique. Pour décrire les personnages, les atmosphères, les environnements, et donc pour ainsi rendre le film plus clair émotivement et assurer la fluidité de la narration en masquant les coupures radicales. À quoi sert un thème au cinéma ? Ah, belle question. Le thème est cette idée musicale brève ou développée, reprise à l'identique ou déclinée tout au long d'un film qui s'inscrit comme une signature. Participe à définir une identité musicale propre à une œuvre, favorise également une certaine unité par sa répétition et participe à élaborer une narration. Alors, tout ça, c'est beaucoup, beaucoup de mots. On va essayer de définir un petit peu plus cela. Je cite. Le travail thématique a un rôle narratif. Il permet au compositeur d'être comme un scénariste second, qui va raconter par des notes son histoire. Le thème devient alors un leitmotiv lorsque sa construction au fil du récit fait associer un motif à des éléments appartenant à l'univers du film, comme les personnages, objets, lieux, situations dramatiques. Ces thèmes s'inscrivent facilement dans la mémoire pour que leur identification soit évidente et nourrissent le récit à la manière de points de repère. Autant porte-le-vent contient 10 thèmes principaux, la mélodie de Tara, de Scarlett, du couple, de la plantation. Un thème peut notamment convoquer la présence d'un personnage absent à l'image dès lors que le lien avec celui-ci a été relevé. Mais il peut également renvoyer à des éléments plus diffus, comme un sentiment ou un symbole. Il s'agit d'un fil conducteur. Alors évidemment, le thème favorise l'empathie du spectateur, qui ne quitte pas l'émotion des personnages ou alors les enjeux dramatiques d'une scène. Un thème s'efface et revient, construit et renforce les souvenirs associés au film. Voilà pas mal d'éléments. Faisons donc des citations par exemple de Francis Lai, qui a écrit la musique de Love Story. Il faut trouver une mélodie qui soit facile d'accès, aisée à reconnaître, tout en étant originale. Je m'attache à écrire des mélodies qui peuvent être ensuite transformées, passer d'une musique symphonique à du jazz, pour pouvoir avoir des couleurs différentes au sein d'un même film. Philippe Sardre lui-même a dit à propos des choses de la vie. En général, j'essaie d'être mélodiste, qu'il y ait toujours un air, même s'il a été à moitié caché, pour que les gens ne soient pas perdus. Je fais toujours attention à ça. Tout le monde peut écrire de la musique, mais s'il n'y a pas un air qui, tout d'un coup, est différent des autres, ça n'en vaut pas la peine. Vladimir Cosma, à propos du grand blond avec une chaussure noire. J'ai toujours considéré que le moteur et le sujet de la musique étaient la mélodie. Dans un livre, il y a son sujet. On ne peut pas écrire un roman si on ne sait pas de quoi on parle. Pour moi, on ne peut pas écrire une musique s'il n'y a pas de mélodie. C'est le fil conducteur. Ou encore Gabriel Yared qui a parlé du patient anglais. Pour moi, c'est essentiel qu'un thème de musique de film puisse s'attraper, qu'on se le mette en tête, se le chanter ultérieurement et intérieurement. Alors voilà à quoi sert un thème au cinéma. Il renforce beaucoup les émotions, mais il doit rester, bien entendu, énormément dans la tête du spectateur pour mettre en relation l'image avec le son, et même s'il n'a pas l'image, il va repenser à l'histoire. Alors, on pourrait se demander également une dernière question. Est-ce qu'on a écrit des musiques originales ou ce sont des musiques préexistantes ? La musique originale, celle qui est écrite spécifiquement pour le film, par un compositeur. Par contre, la musique préexistante, c'est celle qui a une existence préalable au film, dans un tout autre contexte. Mais chacune de ces musiques ont chacune leur spécificité. La fusion de l'une avec les images, la notoriété de l'autre, mais parfois elles peuvent se confondre, semant le doute chez l'auditeur-spectateur. Citation. Les emprunts n'excluent pas l'appel à un compositeur. Musique préexistante est dédiée. Chacune dotée de spécificités et de fonctions propres au sein d'un même film peuvent s'y côtoyer. La première instaure une pause dans le déroulement de l'action, d'autant plus explicite que sa notoriété est grande. Tandis que la seconde, plus subjective, nourrit le récit. Par exemple, pendant que l'une illustre le contexte historique ou culturel, la musique écoutée par les personnages, l'autre s'intéresse à leur intériorité. Une musique existante peut jouer son rôle de repère et d'identification, mais peut aussi remplir le même rôle qu'une musique originale si elle n'est pas trop connotée. Quentin Tarantino pioche dans le répertoire de la musique de film, souvent d'Ennio Morricone, des morceaux déjà cinématographiques et chargés d'émotions, comme Morijarre entendu à la fin de Once Upon a Time in Hollywood. Un compositeur est parfois invité afin d'assurer la continuité suite à l'emploi de certaines de ses anciennes œuvres. Les musiques préexistantes se marient aux originaux du même artiste afin de maintenir une certaine cohérence de style. Ainsi, un thème que l'on croyait original s'avère provenir de l'œuvre antérieure du compositeur. Par exemple, Les Égarés de Philippe Sard, ou Le Professionnel de Ennio Morricone, Borsalino de Claude Bullings, ou encore In the Mood for Love de Shigeru Ume Bayase, ou encore Le Parrain de Nino Rota, qui a repris un thème de Rota pour Melodia per Fortunella en 1958. Des arrangements et interprétations spécifiques peuvent permettre d'harmoniser les musiques existantes et l'univers du film par adaptation au rythme ou au climat d'une scène. Voilà, tout ceci pour dire que la musique au cinéma est quelque chose d'extrêmement réfléchi. Parfois, la musique est un acteur à part entière. Comme cela a déjà été dit, la musique complète l'image, permet d'aider le spectateur à mieux comprendre l'intrigue, les émotions. Je vais terminer cette chronique non sans rappeler que la musique fait partie de la culture, qu'elle accompagne tout un chacun, tous les jours, dans toutes les formes, et qu'il ne faut pas la considérer, au même titre que toutes les formes d'art, bien entendu, comme quelque chose de secondaire. Le cinéma, vous l'aimez ? Eh bien, sachez qu'il existe aussi grâce à la musique.
Le David Sicole.
Un un grand merci à toi, David, pour cette dernière chronique du David Sicole de la saison. Alors, comme je vous l'avais dit lors de l'émission du 9 février de cette année, une émission qui était consacrée à George Fenton, je vous avais dit que c'était quasiment le compositeur attitré du réalisateur Ken Loach. Et ben, c'est d'ailleurs avec une composition, un titre de ce compositeur que nous allons continuer cette émission. En effet, George Fenton a composé pour un film sorti en 1996 de Ken Loach. Il s'agit du film Carla's Song. Alors pour le synopsis de ce film, nous sommes à Glasgow en 1987. George, chauffeur de bus, est amoureux de Carla, jeune réfugiée nicaraguayenne qui a fui la guerre dans son pays après avoir été témoin d'événements dont elle ne veut pas en parler. Un jour, il la sauve d'une tentative de suicide. Il décide alors de se rendre avec elle au Nicaragua sur les traces de son passé. Parti avec une sympathie pour le pays de Carla et pour ses compagnons de lutte, ce paisible garçon se retrouve soudain au cœur d'une violence qui n'est pas la sienne et qu'il n'avait jamais soupçonné et qu'il est incapable d'ailleurs de supporter. Allez, on continue tout de suite cette émission consacrée à Ken Loach avec le titre Walking to See Antonio de George Fenton. Un titre tiré de la bande originale du film Carla Song. Allez, tout de suite, on se retrouve sur le 101.5 de Radio G. Allez, on continue avec un autre titre du compositeur George Fenton. Il s'agit d'un film réalisé par Ken Loach, sorti en 1998, My Name is Joe. Un film qui fut présenté en compétition au Festival de Cannes la même année et pour lequel l'acteur principal, Peter Mulan, remporta le prix d'interprétation masculine. Alors on continue tout de suite avec le titre Spirit in the Sky.
Deadpan Bully. I'm not ready for this, man. I really don't think I can cope with this.
Allez, on poursuit avec un drame sorti en 2002. Il s'agit du film Sweet Sixteen, alors un magnifique film que je vous conseille fortement de regarder si ce n'est déjà fait. Il s'agit de la vie et des aventures hein, du jeune Liam entre son beau-père dealer et sa mère toxicomane qui est en prison. Alors la musique est toujours signée George Fenton. Alors il faut savoir hein, pour ce film que l'usage alors, du mot fuck, je laisserai les anglophones hein, pour traduire librement, est utilisé 313 fois. Et le mot cunt, alors qui est un terme argotique hein, désignant le sexe féminin, environ 20 fois, ce qui a conduit le British Board of Film Classification à interdire ce film au moins de 18 ans. Alors l'Espagne a pris la même décision. Il n'y a que la France et l'Allemagne hein, qui, eux, ont fait une interdiction au moins de 12 ans. Alors cette interdiction au moins de 18 ans... a amené Ken Loach et le scénariste Paul Laverty à protester dans un article hein, sorti dans le journal Le Guardian. Paul Laverty, le scénariste qui a parlé de censure et de préjugés de classe, car la plupart des informations qui sont à la base du scénario émanent de jeunes Écossais de moins de 18 ans qui bah, pourtant n'ont pas pu voir ce film. Allez, je vous laisse avec donc ce nouveau titre, le titre d'ouverture hein, d'ailleurs, donc composé par George Fenton, tiré de la bande originale du film Sweet Sixteen. retour sur le 101.5 FM de Radio G ou le www.radio-g.fr. C'est le moment de tenter votre chance pour gagner votre place du cinéma, du Cinéville des Ponts-C. Alors, vous allez pouvoir bientôt l'utiliser puisque le cinéma rouvre ses portes à partir du 22 juin. Allez, je vais vous passer quelques indices musicaux qui vont normalement vous permettre de découvrir l'identité d'un acteur britannique. Je n'en dis pas plus, je vous laisse tout de suite avec les indices. Donc pour certains ça va être très facile. Si vous avez reconnu donc l'acteur britannique, il suffit de m'envoyer un mail à l'adresse habituelle, hein, g.neric49@gmail.com. Donc g.neric49@gmail.com. Vous m'envoyez donc votre réponse pour savoir de quel acteur britannique il s'agit. Et puis, on fera un tirage au sort parmi ces réponses, parmi les bonnes réponses, afin de désigner donc le vainqueur, le gagnant ou la gagnante de cette place de cinéma du Cinéville des Ponts-C. Et puis, pour ceux qui ont encore un petit doute, je vous donnerai un indice supplémentaire en fin d'émission. Alors, restez avec nous. On continue avec la filmographie du réalisateur Ken Loach, avec un film sorti en 2009. Alors, il s'agit d'un film qui met en scène un ancien footballeur qui s'est reconverti dans les arts, alors notamment la peinture, la sculpture et le cinéma, avec quelques petits rôles qu'il a eu, notamment donc avec Ken Loach dans ce film Looking for Eric. Et il s'agit d'Eric Cantona. Alors, ce film nous raconte la vie d'Eric Bishop, postier à Manchester et fan de foot, et qui, lors de ces moments de détresse entre ces deux adolescents qui lui mènent la vie dure à la maison avec sa deuxième femme, dans ces moments de détresse et dans ses pensées suicidaires, a des hallucinations qui lui permettent d'avoir une visite, on va dire, du footballeur Eric Cantona, philosophe à ses heures, qui l'aidera donc à se reprendre en main. Alors sur le film, hein, le titre Looking for Eric joue justement sur bah, le prénom du personnage principal et de son idole, Eric Cantona. Et tout au long du film, hein, les séquences sont jalonnées hein, de réels extraits des matchs du club de Manchester United dans lequel Cantona jouait. Quant à la musique, hein, elle est toujours signée de George Fenton. Et je vous propose d'écouter le titre « I'm not a man, I'm Cantona ». Avec quelques extraits dans lesquels vous reconnaîtrez hein, la voix de cet ancien joueur de foot reconverti dans le cinéma.
Today at Old Trafford, it's the return of Eric Cantona, the most talented, temperamental and talked about footballer in Britain.
Allez, je vous propose de terminer cette émission avec un dernier film de Ken Loach, sorti en 2014. Il s'agit de Jimmy's Hall. Alors, Jimmy's Hall est un film qui s'inspire de faits réels. Le républicain James Gralton ouvre en Irlande dans les années 20 puis dans les années 30 une salle de danse de campagne qui est aussi un lieu d'enseignement, d'échange et de culture. Alors, cette initiative lui attire les foudres de l'église catholique et des conservateurs. Un film sur fond de conflit entre l'INA, donc l'armée des partisans du traité anglo-irlandais signé le 6 décembre 1921, et de l'IRA, l'armée des opposants à ce même traité. C'est la fameuse guerre civile irlandaise. Et je vous laisse tout de suite avec un titre, alors toujours du compositeur George Fenton, hein, qui suit la carrière donc, du réalisateur Ken Loach. Et on se retrouve juste après pour la fin de cette émission.
Thank you.
c'est déjà la fin de cette émission spéciale Ken Loach. Alors je vous rappelle que vous avez une place de cinéma à gagner si vous m'envoyez la bonne réponse. Alors il y avait un acteur britannique à découvrir via quelques extraits musicaux. Et donc, petit indice supplémentaire, c'est un acteur qui a pour son premier grand rôle au cinéma, on peut dire qu'il avait déjà les dents longues et bien aiguisées. Allez, et puis on peut également donner comme indication qu'il nous a quittés il y a quasiment un peu plus de 5 ans maintenant, c'était le 7 juin 2015. Allez, je vous laisse avec le reste de la programmation musicale de Radio G. On se retrouve la semaine prochaine, ce sera une émission spéciale Anthony Hopkins. Et puis il me reste juste le temps pour moi de vous donner la phrase culte de fin de notre émission. Le cinéma, écoutez-le, ça n'a rien à voir.